France Musique. Tour de chant, Martin Penet.
Je monte sur les planches et vous venez me voir.
Sur la scène, il y a l'amour et mes façons d'y croire.
Aujourd'hui, la postérité d'Aristide Bruand, première partie. Disparu il y a 100 ans, Aristide Bruand reste une figure majeure de l'histoire de Paris et de l'histoire de la chanson, en particulier la chanson réaliste, genre dont il est quasiment l'inventeur. Cet anniversaire a suscité au printemps dernier une exposition au musée de Montmartre, qui dure encore jusqu'au 20 octobre, ainsi qu'un spectacle au hall de la chanson, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir au cours de cette série d'émissions. La mémoire populaire a conservé quelques chansons de Bruand comme « Nini Potchien » et « Rue Saint-Vincent ». Mais il en a fait des dizaines d'autres qui racontent à leur manière tout un pan de l'histoire du Paris populaire de la fin du XIXe siècle. Quelques 70 ans plus tard, Mouloudji revendiquera cet héritage en y mêlant son propre parcours dans une chanson qu'il a co-signée avec Chris Carroll.
Paris de mes mélancolies, Paris de Saint-Germain-des-Prés, Paris de la guerre et la paix, Paris du dernier mois de mai, Paris du soir et des vitrines, Paris où je t'ai rené perdu, Paris que j'ai perdu de vue, Paris qui me serre à la gorge comme une chanson de Bruand. Paris de mes mélancolies, Paris de la rue des Rosiers, Paris où mon enfance est morte, Paris qui m'a mis à la porte, Paris qui a fait mes parents, Paris que j'ai perdu de vue, Paris où vivront mes enfants, Paris qui me serre à la gorge comme une chanson de Bruand. Paris de mes mélancolies, Paris des cris et des pavés, Paris des frêles des montants, Paris qui mesure mon temps, Paris qui est plein d'ombres mortes, Paris que le diable m'emporte, Paris du dernier mois de mai, Paris qui me serre à la gorge comme une chanson de Bruand.
Comme l'indique cette chanson écrite et enregistrée en 1968 par Mouloudji, Aristide Bruand fait définitivement partie du panthéon de la chanson parisienne et figure en bonne place dans le répertoire de chanteurs qui ont su l'exporter au cours du XXe siècle. Mouloudji, qui était à la fois chanteur et producteur de disques, a consacré en 1970 un album 33 tours au répertoire d'Aristide Bruand qu'il a enregistré en compagnie de Francesca Solville. Ce disque accompagne le spectacle qu'il a monté au Théâtre du Vieux Colombier, dans la rue de Bruand, avec Francesca Solville, Jacques Échantillon et Liliane Patrick. L'année suivante, Mouloudji est interviewé par Émile Noël pour l'émission Profil sur France Culture.
Vous avez récemment fait des spectacles, en particulier vous avez fait des spectacles au Vieux Colombier, vous avez participé, je pense, au Bruand, je pense à tout ça. Effectivement, d'ailleurs, Bruand semble avoir une assez grande importance pour vous, parce que vous avez écrit une chanson sur Bruand, vous chantez du Bruand, etc. C'est une prédilection particulière, c'est...
Non, c'est parce que Bruand est un... Vous savez, faire œuvre de chansonnier, c'est extrêmement difficile. La chanson est une chose qui est un petit reflet de l'époque. C'est un petit frisson, une petite chose de rien du tout. Ceux qui restent, qui arrivent à faire une œuvre de chansonnier, on les compte sur les doigts. C'est extrêmement... Vous avez beaucoup de poètes, vous avez beaucoup de romanciers, vous avez beaucoup de peintres, beaucoup de sculpteurs, beaucoup de choses. C'est quand même... Mais la chanson n'est pas respectée. Alors... Une œuvre comme Bruand, vous avez au moins 120 chansons qui sont des chefs-d'œuvre, puis des chefs-d'œuvre même sur le plan littéraire, qui sont terminées, qui sont écrites dans une langue d'une précision, je sais pas, puis enfin il y a des trouvailles, par exemple cette langue parlée qui était dans l'air, évidemment à l'époque on n'écrivait pas tout à fait comme ça, pas avec sa concision, pas avec sa précision dans le choix des mots, d'arriver à cerner en quatre ou cinq strophes toute une vie. Par exemple, la langue parlée de Bruant, personnellement, je la trouve supérieure à la langue parlée des Soliloques du Pauvre ou de Rictus. Je la trouve supérieure. Je la trouve plus élégante, plus dure, plus... Ça s'étend moins. Et c'était avant Céline. Donc, 40 ans avant Céline, on pouvait dire déjà que la trouvaille était faite.
Je ne sais pas si je suis de Grenelle, de Montmartre ou de la Chapelle, d'ici d'ailleurs ou bien de là-bas. Mais je sais bien que la foule a couru, un matin m'a trouvé sur le tas, dans la rue, dans la rue. Y a ben des chances pour que mon père, il ait jamais connu ma mère, qu'a jamais connu mon daron. Mon daron qui doit l'avoir eu un soir de noces qu'il était rond dans la rue, dans la rue. J'ai jamais connu d'autre famille que la petite marmaille qui fourmille aussi quand ai-je mes marida. Je m'ai mis avec une petite grue qui t'enruquait le soir à dada dans la rue, dans la rue. C'est ça qui faisait ben mon affaire. Mais un beau soir, ça fait faire, les mœurs l'ont fourré au ballon. Et depuis qu'elle a disparu, je sors galapère et je fais ballon dans la rue, dans la rue. À présent, où voulez-vous que j'aille? Vous voudriez dire que je travaille? Je pourrais pas, j'ai jamais à Paris. Va falloir que je vole ou que je tue, hardi joyeux, pas vu, pas Paris, dans la rue, dans la rue. Et puis zut, et vive les amanches, vive les escarpes et vive les grinches. Un jour faudra que je passe aussi devant la foule encore accourue pour voir ma gueule en raccourci dans la rue, dans la rue.
Mouloudji n'est pas le seul à vanter l'écriture de Bruant. Francis Carco, qui avait connu le chansonnier peu avant la Grande Guerre, lui a consacré en 1954 un livre édité chez Gallimard intitulé « La belle époque au temps de Bruant », sujet qu'il a décliné 3 ans plus tôt sous la forme d'émissions de radio enregistrées en mars 1951. Le voici justement se livrant à une véritable explication de texte et en chantant, s'il vous plaît.
Nous sommes loin de Bruant, qui, d'un seul trait, sans larmoyer le moins du monde, campe ses héros. Sa maman s'appelait Flora. Cela suffit. Flora. On comprend aussitôt quel était ou quel avait été son métier. Dans une autre chanson célèbre, parlant des rafles opérées par les flics et déplorant pour les amants de ces dames d'être ainsi arquinchés, Bruant trouve cette image saisissante. Il y a des nuits où ce que les sergots les ramassent comme des escargots, de la rue de Flandre à la Chopinette, à la Villette. Ou encore, comme vous l'avez entendu au début de cette émission, il était né près du canal, par là dans le quartier de l'Arsenal. Sa maman qu'avait pas de mari, cela dit tout. En quelques mots, Bruant avait le don du raccourci. Rappelez-vous, en la voyant, on savait pas si c'était de la viande ou du gras qui ballottait sur sa surface à Montparnasse. Dans l'idylle également, c'est un maître de la chose vue. Du détail juste, typique, révélateur. A trop de fierté pour ramasser les bouts de cigares pendant tout le temps que je vais passer à Saint-Lazare. Et quel charme tout à coup. Un soir d'automne, à ce qui paraît, pendant que la vieille butte retirait sa robe verte. Nous nous épousions dans les foins, sans mère, sans noce et sans témoin, à mon merde.
Voici à présent le chansonnier en personne dans un enregistrement pâté de 1911 dédié aux prostituées des faubourgs de la capitale.
La Ronde des Marmites, chantée par Aristide Bruant. La nuit tous les chats sont gris, dansons la ronde. La nuit tous les chats sont gris, dansons la ronde. Faisons le tour de Paris, de Montmartre à Montsouris. Dansons la ronde, les marmites de Paris, oh et les souris. Les rongeuses de monde, faisons chanter avec nous nos michets et nos marlous. Dansons la ronde, Paris est à nous. Nous consolons les cocus, dansons la ronde. Nous consolons les cocus, dansons la ronde. En tout temps on les a vus nous apporter leurs écus. Dansons la ronde, les marmites de Paris, oh et les souris, les rongeuses de monde, faisons sauter avec nous nos michets et nos marlous. Dansons la ronde, Paris est à nous. À l'heure des assassins, dansons la ronde. À l'heure des assassins, dansons la ronde. Nous endormons sur nos seins les sergents et les roussins. Dansons la ronde, les marmites de Paris, oh et les souris, les rongeuses de monde. Faisons sauter avec nous nos michets et nos marlous. Dansons la ronde, Paris est à nous. Foutons bien des lois, dansons la ronde. Nous nous foutons bien des lois, dansons la ronde. Les ducs, les princes, les rois se réchauffent sous nos doigts. Dansons la ronde, les marmites de Paris, oh et les souris, les rongeuses de monde. Faisons sauter avec nous nos michets et nos marlous. Dansons la ronde, Paris est à nous. Petit poisson grandira, dansons la ronde. Petit poisson grandira, dansons la ronde. Et tant que Paris sera, la marmite bouillira. Dansons la ronde, les marmites de Paris, oh et les souris. Des rongeuses de monde, faisons sauter avec nous nos michets et nos marlous. Dansons la ronde, Paris est à nous.
Ne nous bouchons donc pas les oreilles dès qu'on parle de Bruant. Sa vogue, qu'on avait cru passer après la guerre de 14, est en train de renaître, et elle ne le doit pas uniquement à sa verdeur d'expression, mais à l'accent humain, pathétique et sincère qu'elle conserve. Une chanson de Bruant est toujours bien construite. Elle a un sens, une atmosphère, un mouvement, un rythme dont le goût s'est peut-être émoussé, mais dont le caractère n'a rien perdu de son jaillissement. Pardonnez-moi de citer encore Maurice Donnet. Son témoignage mérite pourtant qu'on en tienne compte. Il n'est pas en effet courant d'entendre un membre de l'Académie française dire d'un poète que les honnêtes gens tenaient pour regrettable.
Bruant chante les purotins et les souteneurs. Ce n'est pas qu'il ait une tendresse particulière pour ces derniers, mais entre les fortifs et les boulevards extérieurs grouille une population aux mœurs spéciales. Cette population, Bruant a pu l'étudier de près. Son ami Oscar Métainier, secrétaire d'un commissaire de police, lui a facilité l'accès des bouges et des repères, et il a compris qu'une société a les bas-fonds qu'elle mérite. Peut-être n'est-ce pas seulement par genre qu'il engueule les gens de la haute et les politiciens qui viennent dans son cabaret, Ces derniers, surtout, il les rend responsables de l'assommoir et du taudis.
5 minutes chez Bruant. Scène réaliste interprétée par l'auteur. Et ben, bon Dieu, cette fois-ci, v'là du linge. C'est pas de la rinsure de bidet. C'est de la gerbe, c'est de la belle. 2 chouettes petites sœurs avec un ambassadeur. Un miché ou un voleur. À nous les cœurs.
Oh là là, ce gosse qui est là. Oh là là, ce gosse qui est là. Oh là là, ce gosse qui est là. Oh là là, ce gosse qui est là.
Par ici, mes petites chattes, mettez votre cul là.
Monsieur Bruant, il n'y a plus de place.
Il y a toujours de la place.
Tu m'en enverras 3 caisses.
La ferme, toi, salon. Et toi, Gourdiflon, viens par ici avec tes 2 bergères. Maxime, vous êtes 3 bocs qui a un galopin, que je trinque à la santé des poules de Gourdiflon. Ne fais rien, ici, on fait pas la corde. À la tienne, mon salon. Pareil qu'on ne se refuse rien dans ta famille. C'est à toi, ces 2 ponettes-là.
Monsieur fait l'homme sandwich, il promène sa bidoche entre 2 tableaux.
Oui, il a pris 2 gonzesses pour être plus sûr d'être cocu. Ah, de chameau, vous allez taire vos gueules, je vais vous chanter les petits joyeux. Et tâchez de prendre au frein si vous en êtes capable, tant de proparien, tant de saligots. Et nous qu'on voit passer avec des nœuds de cravate, des bleus, des blancs, des rouges et des couleurs cocu. Et si nos petites gonzesses prennent un peu la savate, nous avons des pantoufles pour leur s'y foutre dans le cul. Et nous les petits marmots qui n'ont pas quoi pour chanter. Et nous les petits marmots qui n'ont pas quoi pour cœur.
Bravo, bravo, bravo. Messieurs, un banc pour le patron, et que ça pète.
1, 2, 3, 4, 5. On a frappé. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est un vieux macro qui vient d'ici pour dessaler son fils. Maxime, foutez-les à l'institut et donnez un siono à monsieur pour tremper la tronche à son lardon.
Bruant a trop vu de misère dans la rue pour ne pas se réjouir d'y avoir personnellement échappé. Cependant, c'est un homme de cœur que les injustices sociales ont toujours révolté. Mais il aime tant la vie qu'il ne peut s'empêcher de la prendre comme elle vient. Zola, chef de l'école naturaliste, a cru de bonne foi que le chansonnier des Puretins et des Souteneurs partageait ses principes. Zola se trompait. Le naturalisme de Bruant n'est nullement comparable à celui du groupe de Médan. Il est parti de l'observation directe des vies, des aberrations étalées sous ses yeux, il ne s'y est jamais complu. Loin de là, il en a dégagé une sorte d'allégresse crapuleuse qui rachète dans une large part l'ignominie fréquente de ses sujets.
France Musique, tour de chant, Martin Penet.
À Paris, les petites gigolettes gagnent de l'argent bien facilement. Elles ont du linge et des toilettes et même un petit appartement. Et ben moi, j'ai jamais eu de veine, je ne turbine pas dans les grands prix et je carapate le long de la Seine entre Billancourt et Paris. Rodeuse de berge au bord de l'eau, je trottine comme une petite grue et sous les ponts, si je fais le poireau, je ne me balade pas dans la rue. Si je frayais dans les quartiers riches, je pourrais me payer des kimonos. Au lieu de bâcher dans les péniches, j'irai pieuter dans des garneaux. Mais j'ai pas le rond, souvent je suis meule, je bouffe pas tous les jours à ma faim. Et je vais devant moi, comme ça, toute seule, en chantant pour gagner mon pain. Rodeuse de berge, au bord de l'eau, je trottine comme une petite grue et sous les ponts, si je fais le poireau, je ne me balade pas dans la rue. Le matin, quand le soleil s'apprête à rayonner sur les coteaux, quand la nature se met en fête, j'écoute chanter les petits oiseaux. Mais le soir, sitôt que la lune se lève, je recommence à marcher devant moi et je viens poireauter sur la grève en attendant je ne sais pas quoi. Rôdeuse de berge au bord de l'eau, je trottine comme une petite grue, et sous les ponts, si je fais le poireau, je ne me balade pas dans la rue.
C'était Francesca Solville dans l'ultime chanson d'Aristide Bruand, Rôdeuse de berge, écrite en 1923. Le chansonnier, qui avait un sens commercial assez développé, a regroupé l'essentiel de ses chansons sur les quartiers de Paris dans trois recueils illustrés par le talentueux Steinlen, qui aimait aussi dépeindre les déshérités. Le premier volume, intitulé « Dans la rue », est publié en février 1889 et vaut à Bruand un chaleureux accueil des critiques littéraires qui y voient une sensationnelle étude sur la pègre. Ce seront au total trois volumes de chansons dans la rue qui paraîtront en quelques années jusqu'en 1895. Un quatrième volume, paru en 1996, après de longues tournées en France du chansonnier, s'appelle « Sur la route », illustré cette fois par Borgex. Cela représente au total 120 chansons et monologues. Au fil des pages, ses œuvres déclinent tous les aspects du Paris populaire et même des alentours. Parmi ceux-ci figure Belleville, quartier d'enfance de la chanteuse Odette Laure, ici interviewée sur France Culture par François-Régis Barbry en 1997.
Quand vous parlez de Belleville et que vous vous revoyez enfant, vous entendez quoi là, spontanément? C'est quoi les sonorités?
L'accordéon. Les sonorités, l'accordéon, les odeurs, le tabac. Mes parents avaient donc cet établissement qui s'appelait Café des Arts. Et pour la petite histoire, justement, les ouvriers d'art réunis, c'est-à-dire les potiers, les sculpteurs, les luthiers, etc., avaient formé une petite colonie. C'était les précurseurs du syndicalisme. Et dans mes chansons, je m'étais dit, il faut que je trouve pourquoi on a chanté cette chanson. Mon père qui était un lapin qui s'appelait J.B. Chopin et qu'avait son domicile à Belleville. Soir avec sa petite famille, il se baladait en chantant des hauteurs de la courtille, à Ménilmontant, à Ménilmontant. Tout le monde chante ça, sans que ça les émeuve de dire mon père qui était un lapin. Alors j'ai cherché pourquoi, et bien c'est parce que justement, ce groupe d'ouvriers d'art réunis ont eu un gros succès d'estime. Ils faisaient passer leurs revendications, parce que pour la plupart, ils ne savaient ni lire ni écrire, par leur poète chansonnier, dont le plus célèbre fut Béranger. Bon. Et alors, on les a appelés des joyeux, d'une part, et des lapins, parce qu'ils proliféraient à toutes les portes de Paris. Voilà pourquoi on a chanté « Mon père qui était un lapin ». Vous voyez que c'est plein d'histoires, Belleville, oui. Aussi.
Hop, c'était un lapin qui s'appelait J.B. Chopin et qui avait son domicile à Belleville. Soir avec sa petite famille, il se baladait en chantant des hauteurs de la courtille à Ménilmontant, à Ménilmontant. Il buvait si peu qu'un soir, on l'a retrouvé sur le trottoir, il était crevé bas tranquille à Belleville. On l'a mis dans de la terre glaise pour un prix exorbitant. Tout haut du Père Lachaise, à Ménilmontant, à Ménilmontant. Depuis, c'est moi qui ai le souteneur naturel à ma petite sœur, qui est l'amie de la petite Cécile, à Belleville, qui est soutenue par son grand frère, qui s'appelle Éloi Constant, qui a jamais connu son père, à Ménilmontant, à Ménilmontant. Ma sœur est avec Éloi, dont la sœur est avec moi. Soir sur le boulevard Esblerfile, à Belleville. Comme ça se gagne pas mal de braise, mon bon frère en gagne autant, puisqu'il refile ma sœur Thérèse. À Ménilmontant, à Ménilmontant. lieu de travailler, je monte les mômes au couloyer pour voir jouer le drame ou le vaudeville à Belleville. Et le soir, on fait ses hippettes, on y tèle son culbutant, mince des genoux et large des pattes. À Ménilmontant, à Ménilmontant. C'est comme ça que c'est le vrai moyen de devenir un bon citoyen. On grandit sans se faire des villes à Belleville. On crie vive l'indépendance. On a le cœur batté content et on nage dans l'abondance. À Ménilmontant, à Ménilmontant.
Après la disparition d'Aristide Bruand en 1925, son cabaret du 84 boulevard de Rochechouart, le Mirliton, rebaptisé Cabaret Bruand, a continué à fonctionner, animé par René Drian, que nous venons d'entendre. Ce dernier a en effet gravé quelques disques 78 tours chez Odéon en 1932, reprenant les grands succès du chansonnier. Outre Francis Carcot, un autre écrivain de la rue a su analyser avec pertinence l'œuvre de Bruand à la radio en 1947. Il s'agit de Pierre Macorlan, qui a connu le chansonnier au Lapin Agile avant la Grande Guerre.
C'est là que, pour la première fois, je vis Aristide Bruand, tel que la célèbre lithographie de Toulouse-Lautrec l'a rendu populaire. Cette silhouette si bien créée donnait l'essentiel de ce grand spectateur nocturne. Touché profondément par la substance secrète des arrondissements de Paris, il sut en recueillir la poésie à la fois évidente et confidentielle. La belle œuvre du grand poète se tient là, vivante jusqu'à la pérennité, dans cette cinquantaine de chansons qui relient les années 1890 et 1900, à l'an 1460, quand François Villon contribuait à l'immortalité de Paris entre la rue Saint-Jacques et la rue de la Juiverie. Entre Villon et Aristide Bruand, des fantômes communs permettent des associations d'idées qui ne sont point arbitraires. La rue impose ici sa poésie clandestine et puissante. Elle emprunte toutes les voies jugées souvent comme fausses ou perdues, afin de faire entendre sa plainte éternelle d'une autorité qui néglige la plupart des lois. J'ai chez moi un livre et une lithographie que Bruand me fit parvenir avec une dédicace que je n'ai pas besoin de relire peu de temps avant sa mort. Parmi les grandes figures littéraires de la Compagnie du Chat Noir, que je n'ai pas connue naturellement, Bruand est une des plus émouvantes, parce que sa personnalité est celle de l'expérience des rues et quelquefois des routes. Comme tous les poètes dominés par la lueur d'une révélation exceptionnelle, il échappa à toute critique. Ses chansons, à Montmartre, à Batignolles, à Grenelle, à la Bastille, à la Chapelle, à Montparnasse, à la Villette, sont autant de vérités premières dans la chronique sentimentale des rues de Paris. Si j'étais éditeur, je réunirais ces chansons, à l'exclusion de toutes les autres, souvent sans éclat, pour en faire un livre sur ce Paris fantastique qui hérita les traditions des coquillards et plus tard des fanandelles de la courtille.
Sa maman s'appelait Flora, elle connaissait pas son papa. Tout jeune, on l'a mis à l'école, à Batignolles. Elle avait des manières très bien, elle était coiffée à la chien. Elle chantait comme une petite folle, à Batignolles. Quand elle se baladait sous le ciel bleu, avec ses cheveux couleur de feu, on croyait voir une auréole à Batignolles. Elle avait encore toutes ses dents, son petit nez où ce qui pleuvait dedans était rond comme une croquignole à Batignolles. Elle ne buvait pas trop, mais assez. Et quand elle vous soufflait dans le nez, on croyait renifler du pétrole à Batignolles. Je l'ai aimé autant que j'ai pu, mais j'ai pu plus lorsque j'ai su qu'elle me trompait avec Anatole à Batignolles. Alors elle m'a donné congé, mais le bon Dieu m'a bien vengé. Elle vient de mourir de la variole à Batignolles. La morale de cette horizon-là, c'est que les petites filles qui n'ont pas de papa doivent jamais aller à l'école à Batignolles.
Nous venons d'entendre Jacques Mirois, pensionnaire du cabaret du Lapin Agile sur la butte Montmartre, dans un enregistrement de 1932. Durant l'entre-deux-guerres, c'est également au Lapin Agile que l'on entretient le souvenir d'Aristide Bruand. Et il y a une bonne raison à cela. C'est lui qui a sauvé le cabaret de la destruction en 1913 en le rachetant, ainsi que le terrain avoisinant, tout en laissant la gérance à Frédéric Gérard, dit Frédé. Bruand revendra le tout en 1922 à Polo, le fils de Frédé, à qui il a appris le chant, à la condition expresse que rien de ce lieu ne puisse changer. Et cela continuera ainsi durant des décennies, Polo conservant jalousement dans son cabaret le culte de Bruand. En mai 1948, la radio effectue pour le Club d'essai un reportage au Lapin Agile, où l'on aime évoquer l'ambiance de l'ancien cabaret de Bruand, le Mirliton, installé dans le local du premier chat noir.
En 1885, Aristide succède à Rodolphe Salis, gentilhomme cabaretier. Aristide, avec son cache-nez rouge, son costume de velours, ses bottes, reçoit les princes, les diplomates, et aussi les personnalités du monde et du demi-monde, les fils à papa et les noceurs, d'une façon qui les fait frémir d'aise. Bien peu de noctambules comprennent que lorsque Bruand chante ses complaintes, c'est avec infiniment de pitié pour ses tristes héros et bien du mépris pour son public égoïste. Voici, chantée par Polo, une chanson de Bruand à la bastoche.
Il était né près du canal, parlait dans le quartier de l'Arsenal, sa maman qui n'avait pas de mari, l'appelait son petit Henri, mais on l'appelait la filoche à la bastoche. Il ne faisait pas sa société du génie de la liberté. Il était pas républicain, il était l'ami du rouquin. Et la petite aime à la méloche à la bastoche. À cette époque-là, c'était le bon temps. La méloche avait 18 ans. Et la filoche était rupin. Il allait des fois en sapin. Il avait du jonc dans sa poche à la bastoche. Mais ça ne peut pas durer toujours. Après la saison des amours, c'est la mistouffe, et ben souvent, pour se les caler avec du vent, filer la comète et la cloche à la bastoche. Un soir, qui n'avait pas mangé, qui roulait comme un enragé, il a pour barboté le quibus d'un conducteur des omnibus. Crevé la panse et la sacoche à la bastoche. Et sur la bascule à Charlot, il a payé sans dire un mot. À la roquette, un beau matin, il a fait voir à ce pantin comment savait mourir un proche de la Bastoche. Il était né près du canal, parlait dans le quartier de l'Arsenal. Sa maman qui avait pas de mari l'appelait son petit Henri. Mais on l'appelait la filoche.
C'était le garçon plus costaud, la Bastoche, on sait le bastaud.
La mémoire d'Aristide Bruand a donc toujours été entretenue. Mais pour comprendre les raisons de cette postérité, il faut remonter bien plus loin du vivant du chansonnier. Car déjà à la fin du XIXe siècle, il a eu des interprètes importants, notamment chez les femmes. Parmi les premières, Eugénie Buffet a pour ainsi dire inventé la figure de la chanteuse réaliste. Cela a eu lieu fin 1892, sur la scène de la Cigale, lorsqu'elle apparut dans une tenue de haillon empruntée à une prostituée des fortifications et en chantant des chansons de Bruand, en particulier à Saint-Lazare, écrite en 1887, et que l'on peut considérer comme un fondement de la chanson réaliste parisienne. Cette œuvre raconte de façon poignante l'amour d'une prostituée pour son mac, alors qu'elle fait un séjour à la prison pour femmes de Saint-Lazare, un lieu assez délabré, situé dans le 10e arrondissement, non loin de la gare du Nord, devenu par la suite hôpital et aujourd'hui transformé en médiathèque. Malgré sa notoriété, Eugénie Buffet a très peu enregistré. On dispose heureusement de quelques gravures magistrales, réalisées en 1933 pour le label Gramophone, peu avant sa disparition, alors qu'elle était déjà malade.
C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Hier, je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qui se voient pas quand ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui, je suis dans le tas à Saint-Lazare. Et de savoir comme ça sans sous, je me fais une bile. T'es capable de faire un sale coup, je suis pas tranquille. T'as trop de fierté pour ramasser des bouts de cigares pendant tout le temps que je vais passer à Saint-Lazare. Va t'en trouver la grande nana, dis que je la prie de casquer pour moi, j'y rendrai ça à ma sortie. Surtout n'y fais pas de boniment pendant que je marre et que je bois des médicaments à Saint-Lazare. Et puis, mon gros loup, bois pas trop, tu sais que t'éteignes. Et quand t'as un petit coup de sirop, tu fous la beigne. Si tu te faisais coffrer un soir dans une bagarre, y'a plus personne qui viendrait me boire à Saint-Lazare. Finis ma lettre en t'embrassant. Adieu mon homme, malgré que tu sois pas caressant, je t'adore comme j'adorais le bon Dieu, comme papa quand j'étais petite et que j'allais comme une hiéra Sainte-Marguerite.
Outre Eugénie Buffet, l'autre chanteuse qui a contribué à diffuser et pérenniser l'œuvre d'Aristide Bruand est la grande diseuse Yvette Guilbert. Avec sa silhouette immortalisée par Toulouse-Lautrec, robe verte, longue en noir, chevelure rousse, nez retroussé et visage très expressif. Elle a chanté à Saint-Lazare au divan japonais, ainsi que d'autres titres de Bruand lors de ses passages dans différents cafés-concerts de la capitale, leur assurant ainsi une diffusion auprès d'un public plus large. Belleville-Ménilmontant, à Grenelle ou à La Villette. En 1907, elle a gravé deux titres de Bruant, également chez Gramophone, mais à l'époque en acoustique, donc sans micro. À Grenelle, histoire d'une prostituée à soldat de l'école militaire, déjà diffusée dans la précédente série d'émissions sur Bruant, et à La Villette.
Il avait pas encore 20 ans, il connaissait pas ses parents, on l'appelait Toto la Rifette à La Villette. Il était un peu sans façon, mais c'était un joli garçon, c'était le plus beau, c'était le plus chouette à La Villette. Il était pas si bien mieux mis, il avait pas des beaux habits, il se rattrapait sur sa casquette à La Villette. Il avait deux petits yeux de souris, il avait deux petits favoris, sur la tempe une petite frisette à La Villette. Il avait un gros chien de bouvier, ça avait une grosse gueule de terrier, on ne peut pas avoir un nevrette à La Villette. De son métier, il faisait rien, dans le jour, il baladait son chien, la nuit, il comptait ma galette à La Villette. M'aimait autant que je l'aime, nous nous aurions quitté jamais si la police était pas faite à La Villette. La dernière fois que je l'ai vu, il avait le torse à moitié nu et le cou pris dans la lunette à la retraite.
Ce flambeau allumé du vivant de Bruant par d'éminentes interprètes que furent Eugénie Buffet et Yvette Guilbert, puis dans les années 20 par Claudine Boria et Josette Dave, est repris à partir des années 50 par de nouvelles chanteuses. Cela commence par Germaine Montero, grande amie de Pierre Macorlan, lequel se fait un plaisir de présenter en juin 1954 sur la chaîne parisienne son disque 25 cm sorti chez Pathé, consacré à 12 chansons de Bruant, dont il a également rédigé le texte de pochette.
Aristide Bruant est simplement un très grand poète, l'interprète très subtil, très maître de sa pensée, d'une certaine inspiration de la poésie populaire entre 1890 et 1910, tout au moins dans une trentaine de ses chansons. La voix de Germaine Montero sort de l'ombre, une œuvre dont les paysages sont aujourd'hui presque imaginables. Que reste-t-il de Grenelle, de Belleville, de La Chapelle, de La Glacière, de Montmartre, etc., etc., si l'on désire ne pas oublier la présence des hommes qui animaient ces quartiers?
Vous avez raison, car pour ma part, il m'est difficile d'interpréter une chanson dont je ne sens pas l'authenticité. Enfin, je veux dire, en employant ce mot, ce qu'elle comporte de véritablement humain. Et c'est pour cette raison que je suis très sensible à l'œuvre d'Aristide Bruant, dont vous m'avez si souvent parlé.
Je reviens à ces quartiers dont je viens de dire. Leur transformation fut rapide. La nouvelle civilisation de la rue s'amorça brutalement. Aristide Bruant fut un des témoins les plus lucides et les plus talentueux de cette époque qualifiée de « rose ». Une époque est toujours rose pour ceux qui sont favorisés par la fortune. On retrouve difficilement des traces de cette béatitude sociale dans la chanson d'Aristide Bruant, dont vous allez entendre quelques-unes. Je ne connais rien de plus désespéré que la plainte de la fille enfermée à Saint-Lazare, ou la lettre écrite dans la cellule des condamnés à mort de la Roquette par le condamné lui-même. Par contre, la présence de cette jeune fille, toujours meule, sur les berges de la Seine, apporte une sorte de grâce mélancolique au paysage inspiré par la misère. Mais tout cela, Germaine Montero va vous le dire beaucoup mieux.
France Musique, Tour de Chant, Martin Penet.
Quand les auras tombent comme des glas, la nuit quand il fait du verglas, ou quand la neige a sa moncelle à la chapelle. On a frio du haut en bas, car on n'a ni chaussettes ni bas, on transpire pas dans de la flanelle à la chapelle. On a beau se payer des souliers, on a tout de même frisqué aux pieds, car les souliers n'ont pas de semelle à la chapelle. Dans le temps sous l'abri tous les soirs, on allumait trois grands chauffoirs pour empêcher que le peuple gèle à la chapelle. Alors on s'en moquait du froid, là-dessous on était comme chez soi, le gaz il nous servait de chandelle à la chapelle. Mais le quartier devenait trop rupin, tous les sans-sous, tous les sans-pains radinaient tous, même ceux de Grenelle, à la chapelle. Et voilà pourquoi que l'hiver suivant, on nous a plus fichu que du vent, et le vent n'est pas chaud quand il gèle à la chapelle. Aussi maintenant qu'on n'a plus de feu, on ne se chauffe plus, on grinche un peu, il fait moins froid à la Nouvelle qu'à la chapelle.
La Nouvelle désigne bien sûr le bagne de Nouvelle-Calédonie où étaient envoyés les prisonniers les plus indésirables. Après Germaine Montero, le répertoire de Bruant est repris par deux chanteuses de Montmartre, Picolette et Souris, qui enregistrent quelques disques 45 tours. Mais l'honneur en revient surtout à Patachou, qui tient un cabaret à Montmartre, à deux pas de la place du Tertre, et chante aussi beaucoup à l'étranger. Déjà en 1950, elle avait gravé à Saint-Lazare, sur l'un de ses premiers disques 78 tours Polydor, sous le nom de Lady Patachou. En 1958, son directeur artistique chez Philips, qui n'est autre que Boris Vian, lui propose de faire un album entier avec 26 chansons et poèmes de Bruant. Elle l'évoquera en 1990 sur France Culture, au micro de Thierry Aveline, pour l'émission Jeux de Louis.
Boris Vian, qui aimait bien ce que je faisais apparemment, puis qui m'aimait bien moi tout court, avait décidé un jour de me faire faire un grand disque pour la série Réalité, qui était une série de prestige chez Philips, de me faire un Bruant. Alors il a pioché dans des textes, ils ne sont pas tous très connus.
Qu'est-ce qui vous plaisait chez Aristide Bruant, dans les chansons de Bruant?
Le langage. Le langage, les personnages. C'est quand chantez Bruant, vous ne chantez jamais pour ne rien dire. Il se passe toujours quelque chose, parce qu'il y a un climat. Il y a un climat qu'il parle d'un quartier, ses personnages aussi, ces personnages qu'il trouvait, qu'il connaissait bien, parce qu'il vivait près d'eux, que ce soit les filles, que ce soit les apaches de l'époque, ou les petits truands. C'était pas méchant, tout ce petit monde-là, au fond. Hein. On les vivait complètement, ils étaient totalement vivants, totalement existants, et puis il leur arrivait des choses. En trois couplets et trois refrains, il leur arrivait plein de choses. Ah oui. C'est beau, Bruant. Et moi, je trouve pas ça démodé du tout.
Pendant que t'étais à la campagne, en train de te faire cautériser, au lieu de rester dans mon pagne, moi, je m'ai mis à dévaliser. Mais un jour, dans la rue de Provence, Je me suis fait faire ma consulta et maintenant je tire de la prévence à Mazas. C'est en dévalisant la case d'une gerce, une gironde à Rupin, qu'on m'a fait avec nip de naze un montant l'air de mes copains. Faut y passer quoi, c'est notre rente. Aussi bon Dieu, je me plaindrais pas si j'avais de quoi me boucher la fente à Mazas. Mais nom de Dieu mince de purée, c'est dégoûtant ce que nous cachons. Des nantis, des pois en purée et de l'eau grasse comme à des cochons. Vrai, je m'enfilerais bien une bouteille à présent que t'es sorti de là-bas. Envoie-moi donc un peu d'oseille à Mazas. Tu dois bien ça à ton petit homme qui a peut-être été méchant pour toi, mais qui t'aimait bien. Car en somme, si je te flopais, tu sais pourquoi. À présent que me v'là dans les planques et que je ne peux plus te coller des tas, tu ne te figures pas ce que tu manques à Mazas.
Et Joss, quand je dis Joss, ça veut dire Basélie, bien sûr. Et Joss, derrière, habillait tout ça avec façon de jouer de l'accordéon qui n'appartenait qu'à lui. Personne n'a jamais compris le secret. Basélie, il jouait pas avec les doigts, Joss.
Embrassons-nous, ma gigolette. Adieu. Sois sage et travaille bien. Tâche de gagner un peu de galette pour envoyer à ton pauvre chien. Nous retournerons sur le bord de la Seine à Meudon cueillir du lilas après que j'aurai fini ma peine à Mazas.
À Mazas, à La Roquette, à Saint-Lazare, sont des chansons de Bruant inspirées par les différentes prisons assez sordides qui se trouvaient alors à l'intérieur des limites de la capitale. L'album de Patachou consacré à Bruant sera réédité chez Philips sous différentes formes au cours des années 60, mais sans les poèmes. Après Patachou et après Misty Gris, c'est au tour de Monique Morelli, qui tient également un cabaret sur la butte Montmartre, nommé Chez Ubu, de s'intéresser à l'univers de Bruant. En 1990, pour les Chroniques sauvages de Robert Arnault et Odile Ambry sur France Inter, Monique Morelli revient sur son choix des chansons de Bruant.
Je trouve qu'elles sont absolument d'aujourd'hui. D'ailleurs, ça peut exister, ça existe toujours. Il y a des filles qui peuvent se faire assassiner rue Saint-Vincent, et qui ne s'appelleront peut-être pas Rose, mais c'est un fait divers qui peut arriver demain.
Alors, pourquoi vous avez fait le choix d'avoir Aristide Bruant à votre répertoire et de l'avoir tant chanté?
Parce que Bruant est un grand poète. Un poète précis, allant directement au but. En trois phrases, il a décrit un personnage, un paysage. Il est très, très rapide, il n'est absolument pas romantique. Quand il parle de la Bastoche, de son personnage de la Bastoche, en trois lignes, il l'explique puisqu'il dit... Il était né près du canal, par là, du côté de l'arsenal. Sa maman, qui avait pas de mari, l'appelait son petit Henri. Là-dedans, on comprend tout de suite que c'était un fils naturel, que sa mère l'adorait et qu'il était vraiment d'un quartier un peu, non pas de voyous, mais enfin, de la Bastoche. Mais à la Bastille, il peut très bien y avoir, il y a certainement une nilipot de chien qui se balade. Hein, et qu'on aime bien. Pourquoi de moins en moins? Elle n'a plus les couleurs de Bruant. Elle a peut-être les cheveux rouges, la mini-jupe et le maquillage outrancier. Mais c'est Nini Pot de Chien de la Bastille.
à laver sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. On n'avait pas connu son père, elle n'avait plus de mère, et depuis 1900, elle demeurait chez sa vieille aïeule, d'où qu'elle s'élevait comme ça toute seule, rue Saint-Vincent. À travailler déjà pour vivre, et les soirs de givre, sous le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules, à rentrer par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. À voyer par les nuits de gelée, la nappe étoilée et la lune en croissant qui brillait blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique, rue Saint-Vincent. L'été, par les chauds crépuscules, a rencontré Jules qui était si caressant, qu'elle restait la soirée entière avec lui près du vieux cimetière, rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était de la tierce qui soutient la gerce. Aussi l'adolescent, voyant qu'elle marchait pas au pantre, d'un coup de surin, il troua le ventre, rue Saint-Vincent. Quand on l'a couchée sous la planche, elle était toute blanche, même qu'en l'ensevelissant, les croque-morts disaient que la pauvre gosse était claquée le jour de sa noce, rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. Elle s'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent.
En 1964, Monique Morelli a enregistré un 33 tours 25 cm chez Le Chant du Monde, comportant 10 chansons de Bruant, accompagnées à l'accordéon par son compagnon Lino Leonardi. La pochette, préfacée par Pierre Macorlan, est ornée d'une aquarelle du même, représentant le chansonnier dans son cabaret. Réédité par la suite en 30 cm, cet album fait partie des jalons importants de l'abondante discographie liée au répertoire d'Aristide Bruant au cours du XXe siècle, que nous continuerons à explorer dans le prochain épisode. Tour de chant, une émission de Martin Pennet, avec le concours de Jeanne Lerche à la préparation, Eric Boisset au mixage, Noé Mignard à la réalisation. Merci à Romain Couturier de la discothèque de Radio France et à Mylène Touchet pour les archives de l'INA.
France Musique.